Le journal présenté par Amélie Gerber.
Bonsoir. Le sort des salaires minimaux dans le Jura n'est pas mis en danger par les débats en cours sur le sujet aux chambres fédérales. C'est la réponse du ministre de l'économie Stéphane Teria à la question orale du député socialiste Patrick Serve. Il ajoute que même si tel était le cas, le canton du Jura serait opposé à un tel projet. Les comptes se portent bien à Porrentruy. La commune Ajoulotte a communiqué ses chiffres pour l'année 2024 et c'est très positif. Elle présente un bénéfice de 304 062 francs après attribution de 3 millions de francs à la réserve de politique budgétaire. Le Conseil national renforce les conditions d'admission au service civil, une manière pour le Parlement de renforcer l'armée, une décision loin d'être unanime, dossier à retrouver dans ce journal. La soirée et la nuit seront calmes et étoilées sous des températures en baisse progressive mais qui restent douces. Demain, même programme qu'aujourd'hui, du soleil tout au long de la journée accompagné de températures estivales. Le canton du Jura fait l'impasse sur une étude pour transformer BAT. Le Parlement jurassien a refusé cet après-midi un postulat qui demandait d'évaluer la possibilité de transformer les anciens locaux de l'entreprise en nouvelles prisons. La demande déposée par le député PCSI Quentin Haas a été balayée par 41 voix contre 15 et 3 abstentions. L'élu de Cornoles faisait suite à l'annonce de la fin de la prison de Porrentruy d'ici au premier semestre 2026 avec l'intégration de la prison de Moutier. Le gouvernement a appelé le Parlement à rejeter le postulat. Il a rappelé que la localisation d'un nouvel établissement pénitentiaire dans le canton était déjà à l'étude. Le sort des salaires minimaux dans le Jura n'est pas mis en danger par les débats en cours aux chambres fédérales. Le gouvernement jurassien s'est exprimé en ce sens ce matin devant le Parlement. En réponse à une question orale, le député socialiste Patrick Serve s'est inquiété des menaces qui planent sur les salaires minimaux cantonaux en Suisse. Il a notamment fait référence à une décision récente du Conseil national. La Chambre du peuple a décidé de modifier la loi pour que les dispositions des CCT, les conventions collectives de travail, priment sur les salaires minimaux cantonaux. Le dossier doit désormais être traité par le Conseil des États. Le ministre de l'Économie a rappelé la position du canton du Jura et s'est montré rassurant, Stéphane Teria.
Comme le Conseil fédéral et la quasi-totalité des cantons, le gouvernement jurassien s'est constamment opposé au principe de faire primer les salaires minimaux des CCT sur les salaires minimaux figurant dans les législations cantonales. En effet, une telle modification va à l'encontre de l'ordre juridique suisse dans la mesure où les cantons sont compétents pour adopter des salaires minimaux en matière de politique sociale. Par ailleurs, une CCT est un contrat conclu entre des acteurs privés et pas une loi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les autorités administratives ne sont pas habilitées à contrôler le respect d'une CCT ni à agir contre une violation de celle-ci. Cela dit, si cette modification de la LECCT devait être adoptée par le Conseil des États et entrer en vigueur, elle serait sans conséquence sur le salaire minimum jurassien. En effet, le salaire minimum jurassien ne s'applique pas aux branches économiques soumises à une CCT, de force obligatoire ou non, mais qui comporte un salaire minimum chiffré. De même, les salaires prévus dans les contrats types de travail ont la primauté.
Le député Patrick Serve s'est déclaré satisfait de la réponse du gouvernement. Toujours au Parlement jurassien, le législatif a validé ce matin les comptes 2024 de l'État qui présentent un déficit de 3,6 millions de francs. Un résultat jugé satisfaisant et proche du budget par l'ensemble des formations politiques. La gauche s'est toutefois montrée inquiète de l'impact des mesures d'économie futures. À droite, l'UDC milite pour une forte restructuration de l'État et a estimé que le gouvernement et la majorité du Parlement ne voulaient pas changer la manière de travailler. Selon la ministre en charge des Finances, Rosalie Beressis, la capacité financière du canton a été préservée. L'arrêté concernant les comptes 2024 du canton a été validé à l'unanimité. Ce soir, deux assemblées communales sont au programme dans le canton. Les habitants des Genevais se réuniront à 20h pour valider les comptes de la commune qui présente un déficit de 131 498 francs. Ils se prononceront également sur un crédit de 60 000 francs pour remplacer un véhicule de la voirie. Du côté de Denfreux-Lunier, la commune tiendra également son assemblée communale dans la soirée. Elle y présentera ses comptes qui affichent un bénéfice de 14 129 francs. On reste dans les comptes avec la commune de Porrentruy qui a vécu une année comptable positive. Le 26 juin, le conseil de ville devra se prononcer sur les comptes 2024 qui affichent un bénéfice de 304 062 francs et ce, après une attribution de 3 millions de francs à la réserve de politique budgétaire. Le résultat a été dévoilé aux médias ce mercredi par le conseil municipal. Ces chiffres noirs tranchent avec ceux du budget qui prévoyait un déficit d'environ 111 000 francs. Cette différence notable s'explique par des revenus inhabituels. Nicolas Musy.
Le conseil municipal met en avant le rattrapage du retard dans les taxations fiscales des personnes physiques et morales pour plus d'un million de francs et le bénéfice généré par les opérations immobilières au Weibe à hauteur de 950 000 francs. L'exécutif souligne aussi une bonne maîtrise des charges ordinaires ainsi que le plan de mesures PM21, notamment par la réduction d'équivalent plein temps qui commence à porter ses fruits. Malgré des comptes 2024 bénéficiaires pour Porrentruy, le conseil municipal veut rester prudent en raison par exemple des coûts futurs de la rénovation du collège Stockmar, de la dissolution prochaine du fonds des sapeurs-pompiers, de la réforme RFFA qui n'est pas encore totalement mise en place, ou encore de l'instabilité géopolitique mondiale et des tensions sur les marchés de l'énergie. Il rappelle aussi que même renforcée cette année, la réserve pour politique budgétaire ne permet pas à elle seule de compenser une érosion progressive des équilibres financiers au niveau structurel.
Toujours à Porrentruy, la redynamisation du secteur est des voies va de l'avant. Trois bureaux d'urbanisme locaux ont réalisé une procédure de mandat d'étude parallèle commandée par le syndicat intercommunal du district de Porrentruy en collaboration avec la municipalité ainsi que la société d'équipement de la région d'Ajoie et du Clos du Doubs. L'objectif était de mener des réflexions sur la manière d'urbaniser ce secteur du chef-lieu Ajoulot, actuellement en friche. Le projet lauréat retenu par les experts et celui de RWB. Il a été présenté ce matin. Les surfaces accueilleront notamment des bâtiments pour les entreprises. Le président du collège d'experts, Alain Buret.
L'idée, c'est vraiment de construire un bâtiment d'activité modulaire pour accueillir des entreprises et qui est vraiment un bâtiment modulaire avec des volumes de hauteur différentes pour vraiment essayer de bien répondre à ce contexte. Et puis ça, c'est un bâtiment qui devrait être réalisé assez rapidement. En tout cas, c'est le souhait de la ville de Porrentruy et du SIDP.
Qu'est-ce qui a fait la force du projet présenté par RWB?
Alors, les points forts, c'est vraiment au niveau du bâtiment qui est proposé pour les activités économiques, pour les entreprises. C'est une trame qui est modulable avec des services au centre et puis qui a un plan qui permet vraiment de diviser les surfaces à la demande en fonction des besoins des entreprises et puis qui s'articule avec une série de cours de découpage qui permettent aussi de dialoguer, de ne pas faire une grande masse, mais vraiment d'avoir un bâtiment qui est découpé, modulaire, qui répond aussi aux bâtiments d'habitation qui se situent vis-à-vis, avec des parties qui peuvent être plus basses, plus hautes. Donc c'est vraiment un projet qui est flexible, qui peut être mis en œuvre par étapes, on n'est pas obligé de tout construire d'un coup, et qui peut aussi être modulé en fonction des besoins des différentes entreprises qui viendront s'y installer.
Des propos recueillis par Émilie Charmillot. Les citoyens peuvent découvrir les planches réalisées par les trois bureaux d'urbanisme au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville de Porrentruy. Ils pourront également poser toutes leurs questions mardi 24 juin de 17h30 à 19h30. Le Spiegelberg Festival ouvre sa scène aux migrants. La deuxième édition de l'événement culturel itinérant franc-montagnard se tient du 26 au 28 juin prochain. Le Noirmont, le Pré-Petit-Jean et Seigne-Légier accueilleront notamment des concerts, mais une partie de la manifestation est dédiée à la médiation culturelle centrée sur l'appartenance et la migration. Dans ce cadre, le projet Territoire propose des ateliers d'écriture et de lecture ouverts aux migrants. La co-animatrice Fanny Vaumann explique ce que la démarche apporte aux participants.
De la confiance et de la valorisation, je ne sais pas si c'est un très beau mot, mais dans le sens de dire que justement leur voix compte, on a envie de l'entendre. Ces personnes sont là, elles prennent cette parole, ont le courage de venir dire ces textes qui sont en général en plus des textes intimes dans une langue qui n'est pas du tout la leur. Et c'est eux en fait qui viennent nous offrir, je crois, ces textes-là.
Qu'est-ce que nous racontent ces participants dans leurs textes, dans leur voix?
On n'est pas juste arrivé en leur disant « écrivez ce que vous voulez » parce que ça serait un peu intimidant, je pense. Donc on avait des exercices même parfois très précis où ils devaient simplement répondre par un mot ou une phrase à une question. Mais ce qu'on a essayé en fait de les faire raconter, c'est à la fois des souvenirs, des choses qui sont importantes pour eux, qui peuvent être des événements qui se sont passés dans leur enfance ou dans leur pays d'origine. En fait, moi, je trouve toujours hyper touchant d'avoir accès comme ça à la réalité en fait, de ces gens qu'on côtoie tous les jours, mais qu'on ne prend pas trop la peine d'écouter.
Propos recueillis par Nicolas Meusy. Les participants à l'atelier Territoire liront leur texte en public sur la scène gratuite du Spiegelberg le 27 juin à 18h aux abords de la Halle Cantine à Seignelégier. Les conditions d'admission au service civil vont être durcies. Le Conseil national a adopté aujourd'hui par 119 voix contre 73 une modification de la loi. Le service civil devra durer minimum 150 jours dans tous les cas de figure et les civilistes devront effectuer un minimum de jours par année. La majorité bourgeoise du Parlement veut ainsi renforcer l'armée et diminuer le nombre de soldats et d'officiers qui passent du côté du service civil. Les explications de la députée du Centre, Isabelle Chapuis.
Historiquement, on a quand même créé ce service civil dans un but assez précis. C'était celui, non pas de laisser le choix, mais de permettre aux personnes qui ne pouvaient pas, pour des raisons de conscience, servir leur pays dans l'armée avec des armes, ils avaient la possibilité de servir leur pays autrement et de manière aussi utile. Maintenant, depuis 2008, on a beaucoup plus de personnes qui passent de l'armée au service civil, parfois même après avoir fait l'école de recrue, voire encore plus. Et puis on constate que ce n'est plus une question de conviction ou de problème éthique avec l'armée, mais c'est simplement une faille dans le système parce que c'est plus agréable d'aller faire le service civil que l'armée.
La gauche regrette cette attaque envers le service civil qui est avant tout idéologique, estime Clarence Chollet, députée verte.
C'est un vœu de la droite d'affaiblir ce service civil parce qu'ils le voient comme un concurrent à l'armée, ce qui n'est pas le cas. Et puis ils amènent toujours l'argument que les effectifs de l'armée sont en péril à cause du service civil, alors qu'en fait les chiffres parlent d'eux-mêmes, ce n'est pas du tout le cas. On a plus de soldats qu'en fait on devrait avoir dans l'armée et donc il n'y a aucun problème. C'est juste un débat idéologique et juste une simple envie de vouloir affaiblir ce service civil.
Un sujet réalisé par notre correspondante parlementaire Marie Vuillemier. Ce projet de durcir l'accès au service civil doit encore passer devant le Conseil des États. Le Parlement a d'ailleurs refusé l'initiative d'un service citoyen pour toutes et tous sans proposer de contre-projet. Israël dit avoir détruit le quartier général de la sécurité en Iran. Cela intervient après que l'armée a annoncé des frappes contre des cibles militaires à Téhéran. Le ministre israélien de la Défense promet de continuer à frapper les symboles de la gouvernance et le régime de l'ayatollah où qu'il se trouve. Dans le même temps, Donald Trump entretient le flou sur la possibilité des États-Unis d'effectuer des frappes sur l'Iran. Aujourd'hui, il a déclaré, je cite, « Je vais peut-être le faire, peut-être pas ». Il a aussi affirmé que l'Iran était entré en contact avec son pays pour négocier.
18h13,
RFJ, sport.
L'équipe de Suisse féminine de basket face à un immense défi dans moins de 2 heures. Elle affronte la Grèce chez elle au Pirée à 19h30 en match d'ouverture officiel de l'Eurobasket. Le stade de l'Olympiakos devrait être à guichet fermé avec 14 000 spectateurs pour l'occasion. La Suisse figure dans un groupe très relevé avec le pays hôte, la Turquie et la France qui fait partie des meilleures équipes de la planète. Mais les Suissesses auront aussi des atouts à faire valoir pour tenter de s'extraire de ce groupe, relève l'entraîneur assistant Romain Gaspo.
Je pense qu'il faut rester sur ce qui a fait notre succès dans les fenêtres qu'on vient de passer. Novembre, février, c'était une équipe qui n'avait pas peur, qui osait se confronter à, il faut déjà le dire, des grosses nations de basket. On a battu le Monténégro, donc on est rentré dans ces matchs avec, je l'ai dit souvent, mais de l'ambition et surtout beaucoup de courage, d'intensité. Naturellement, on n'a pas une équipe hyper volumineuse physiquement, si on se compare aux meilleures nations d'Europe, mais on essaie de compenser ça par beaucoup d'intensité. Offensivement, c'est dans le partage du ballon que ça se passe. On n'a pas une joueuse sur laquelle on peut s'appuyer pour mettre 20 ou 30 points. Donc on essaie de bien se partager le ballon, sachant qu'on a quand même aujourd'hui en Suisse, dans le basket féminin, des filles qui sont bien exportées. Je ne vais pas oublier des noms, mais on peut parler de Nancy Fora qui joue en Ligue féminine en France, ou d'Evita Hermajar qui joue une très très belle saison en Slovaquie. Donc on a des internationales suisses qui réussissent à l'étranger, donc on s'appuie aussi naturellement sur elles. Et puis dans la mentalité, c'est de ne pas avoir peur, d'être dans le combat, l'intensité, pour essayer de compenser forcément des lacunes par rapport aux très grosses nations européennes.
Coup d'envoi de cet Eurobasket à 19h30 pour la Suisse face à la Grèce dans son antre au Pirée. Servette connaît son adversaire pour le deuxième tour qualificatif de la Ligue des champions de football. Les Genevois retrouveront les Tchèques du Viktoria Plzeň. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi à Nyon. Les Grenats s'étaient inclinés face à ces mêmes Tchèques en huitième de finale de Conference League l'année dernière. Le match aller aura lieu en Tchéquie le 22 ou 23 juillet. Retour à la Praille la semaine suivante. En cas de succès, Genève serait assurée de jouer au moins la phase de Ligue de l'Europa League. João Almeida a remporté ce mercredi la quatrième étape du Tour de Suisse à Piuro en Italie. Le cycliste portugais, vainqueur du dernier Tour de Romandie, s'est apposé en solitaire devant le Britannique Oscar Honley et l'Australien Ben O'Connor. Le Français Romain Grégoire reste leader du classement général. C'est la fin de ce journal. Très belle soirée.